Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans le supplément SmackDown de Catch Up, votre émission qui résume et analyse chaque semaine le dernier épisode du show bleu de la WWE SmackDown Live. Je suis Irem et je suis accompagné comme toujours de l'ami Giscal. Salut Giscal.
Salut Irem, salut tout le monde.
Comment vas-tu Giscal?
Ça va, écoute, ça va très très bien et toi
Écoute, est-ce que tu as passé un bon week-end catchesque? Est-ce que tu as aimé le Money in the Bank?
Eh bien écoute, j'ai rattrapé ça en effet, mardi. J'ai beaucoup aimé ce petit pay-per-view, je trouvais très sympa. J'ai pas eu l'opportunité de savoir ce que vous en avez tous pensé, j'ai pas encore écouté tout ça, j'espère que ça a plu à tous nos auditeurs, j'en suis sûr. Mais oui, moi j'ai bien aimé ce qui s'est passé. J'ai bien aimé notamment les choix de vainqueurs, le choix de vainqueur des mallettes que je trouve sympa, même si du coup mon pronostic du Miz s'est cassé la figure.
Ah oui, bah c'est ton seul pronostic qui a été défaillant.
C'est mon seul pronostic qui était défaillant, parce que sinon sur tout le reste, je trouve que ça a été plutôt bien, exécuté ce pay-per-view. Donc ça m'a bien plu, ouais. Miz, j'ai pas compris. On aura peut-être l'occasion d'en reparler après.
Ah oui, évidemment qu'on aura l'occasion d'en reparler.
J'ai pas compris.
Puisque ça tombe bien, dans cet épisode justement de SmackDown Live, le Miz, Samoa Joe, Rusev, Biggie et Daniel Bryan se mettent des tartes pour aller défier AJ Styles. Nous étions à tous les dos dans une arène qui se nomme
Huntington Center.
D'accord, voilà, ça c'est pour les petites anecdotes des noms d'aréna impossibles à prononcer. Petite vidéo de Paige qui se congratule de Money in the Bank. Effectivement, il s'est passé des super matchs. AJ Styles, le champion, a conservé son titre face au méchant japonais. Et Carmella a conservé son titre vaillamment face, même si elle a pas dit vaillamment, face à la japonaise. Donc les japonais n'ont pas réussi à déloger les américains. C'est non. Tout ce qui compte. un peu compliqué là pour Paige. C'était un gros script qu'ils lui ont fait lire dans sa petite.
C'est-à-dire que SmackDown a perdu les deux mallettes. Alors c'est vrai qu'il n'y avait pas grand-chose.
Essayait de mettre de l'emphase. Mais c'est bien parce que ça m'a fait penser effectivement à la dernière fois où c'était post-pay-per-view. Je crois que c'était après Backlash où elle était au centre de l'arène. Tu te souviens? Puis elle faisait. Ouais, c'était un super pay-per-view que tout le monde a adoré.
Oui.
T'entendais les mouches voler.
Compliqué. Ouais.
Donc là, bon, allez, ça s'est fait backstage. Mais tu m'en parlais juste avant qu'on prenne l'antenne, qu'on soit en direct. D'ailleurs, on salue nos auditeurs qui nous ont rejoints. C'est la championne Tucoma Rowe qui ouvre l'épisode. Tu me disais, c'est la première fois.
Et oui, apparemment, écoutez, les statisticiens de l'internet ont relevé que c'était la première fois que dans l'histoire, en fait, on avait les championnes de Raw et de SmackDown qui ouvraient leurs shows respectifs en introduction. Donc c'est vrai que on était de plus en plus aussi habitués à voir les filles, notamment à SmackDown, faire un peu faire les main events aussi des weekly. Et ben maintenant, ça devient commun ce genre de scène et tellement aimé. Pas tant que ça, parce que c'était quand même une première. Mais tu vois, ça nous a pas choqué sur le coup. Ce qui prouve quand même que, mine de rien, voilà, ça s'installe un petit peu.
Est-ce qu'elle est pas là, la vraie Woman Revolution? C'est-à-dire des choses comme ça qu'on ne s'en rend pas bien compte et on trouve ça normal et ça marche.
Mais si, je suis tout à fait d'accord. C'est beaucoup plus, pour moi, parlant que on va faire l'histoire, à grands coups de tartinage en package vidéo. Tu vois, ça, c'est le genre de petites choses qui montrent que elles sont tellement bien installées dans le paysage maintenant, elles font partie du show on trouve ça normal finalement que la championne de SmackDown fasse l'ouverture de l'émission, tout comme Arrow.
Alors, elle fait l'ouverture, Carmella. En parlant de son enfance difficile, ça n'a pas été facile tous les jours pour elle. Elle a beaucoup souffert, Carmella. Mais voilà, elle s'est reprise. Elle s'est dit, je vais écrire ma propre histoire. Je vais devenir une championne. Elle est devenue une championne. Du coup, elle adresse ce discours, un discours de babyface, elle dit, chaque enfant devrait faire comme moi, se regarder, j'invite chaque enfant à se regarder devant un miroir et de répéter cette phrase, Mela is money. Donc évidemment, hein, c'était. Elle a fait l'école Alexa Bliss, comme on dit.
Oui, pas qu'un peu.
On parle de, elle parle de miroir, bah c'était franchement le même genre de promo. Mela is money, évidemment, elle n'a pas changé, elle est toujours aussi arrogante. Et soudain, alors évidemment, elle se congratule hein, d'avoir battu Charlotte Flair et Asuka par elle-même. Hein. Elle appuie sur le fait qu'elle les a battues sans avoir besoin d'aide. Ce qui est à moitié vrai, à moitié faux, puisque Asuka débarque. Asuka débarque, mais on remarque quand même quelque chose de bizarre.
Oui, tout le monde sauf Corey Graves.
Oui, Corey Graves qui fait oh mon dieu, Asuka est là, Asuka, puis on trouve
Ouais.
quand même, elle a des grosses jambes, enfin des jambes, c'est pas les mêmes jambes, elle marche un peu bizarrement, elle a pas l'air de trop sûre d'elle, évidemment, sous la robe, c'est qui? C'est James Ellsworth, donc ce n'était pas qu'un coup d'un soir. James Ellsworth is back, alors qu'il retire son masque, il a encore ce petit sourire, le même sourire qu'il avait à Money in the Bank, où il a fait eh ouais, eh ben oui, qui d'autre, évidemment que c'est moi. Donc il annonce qu'il est de retour, James Ellsworth is back. Il est là pour servir la plus grande femme de tous les temps, bien devant. Alors il a fait toute une liste
Ah oui.
devant Charlotte, devant Lita,
Oui,
Trish
Trish
Stratus,
Stratus, Beyoncé également,
Beyoncé
Mère Teresa.
et
Trop
Ronda
bien.
Rousey.
Eh oui.
Il en place une pour Ronda Rousey. Alors évidemment, le public n'est pas content. Asuka débarque, la vraie cette fois-ci, elle n'est pas contente. Je crois qu'il n'y a même pas son petit entrant qui
Oh non,
déboule.
non.
Elle vient en mode furie et elle démonte James Ellsworth. Il se prend un gros. Mais elle se prend derrière le kick de Carmella. Donc la japonaise est allongée. Carmella repart malgré tout victorieuse et surtout renforcée de l'aide de son ancien compagnon. James Ellsworth est de retour pour jouer un mauvais tour. Est-ce que ça te plaît, ça, ce retour de l'homme sans menton?
Bof.
Ah merde!
Non, bof, ça m'avait fait marrer, son premier run m'avait fait beaucoup rire, mais je trouve, enfin voilà, je trouve que c'était sympa à un moment, mais j'ai pas, c'est pas forcément un personnage que j'ai envie de voir à la télé toutes les semaines, prendre du temps parce que il est, bon, ça va forcément nous donner des segments encore une fois assez drôles parce que voilà, il est bon dans ce qu'il sait faire, mais après. On sait que c'est pas un super orateur, donc il pourra pas non plus nous claquer des promos de fou. Il va pas faire des matchs de dingue. Et puis c'est un petit aveu quand même de faiblesse sur. Je trouve que le personnage solo finalement de Carmella, qui je sais pas, comment est-ce qu'on doit l'interpréter? Est-ce que finalement est-ce qu'elle avait vraiment besoin du retour de James Ellsworth pour lui tenir la chandelle un peu? Est-ce qu'elle pouvait pas gérer son run de championne toute seule? Moi, j'aurais peut-être préféré. Ouais, je suis pas forcément très très ravi. Je trouve que c'est un peu du réchauffé en fait, parce que James Ellsworth en fait va faire,
Exactement.
il va revenir faire ce qu'il avait déjà fait avant. Donc, on a l'impression que voilà, on a fait une sorte de grande parenthèse et puis revoilà ce couple un peu bizarre. Donc, James Ellsworth est toujours dans la friend zone, hein, ça y a pas de doute. Hein. Il s'est fait encore rembarrer là. Il a essayé de
Oui.
dire la femme qu'on aime ou je sais pas quoi là. Enfin bref, tout de suite, elle l'a stoppé là. Non, mais bon, quoi qu'il arrive, il y aura des dynamiques qui seront fun, c'est marrant, mais voilà, je ne sais pas s'il y avait besoin de revenir encore là-dessus. Carmella s'installait un petit peu, installait son personnage, ses catchphrases. C'est compliqué, ça reste compliqué, elle a du mal quand même à s'attirer, je trouve, une vraie grosse hit, mais moi je trouvais que voilà, elle commençait à faire ses preuves, elle a fait un bon match à Money in the Bank. Moi, je trouve qu'elle a fait un très bon match qui méritait d'être souligné quand même. Asuka n'était pas toute seule dans le ring. C'était pas si mal ce qu'elle avait fait. Derrière, elle enchaîne sur une promo là mardi qui était ma foi. Écoute, en fait périlleux dans le sens où Alexa avait fait la même chose la veille, mais beaucoup mieux. Donc en fait, c'est toujours ça qui est un peu compliqué, c'est que Alexa est dans le même registre, mais elle fait quand même tout un petit peu mieux que Carmella. Donc c'est vrai que le timing est toujours un peu délicat, mais on va dire que pris isolément, Carmella, écoute, a fait un excellent match à Money in the Bank, fait une bonne promo à SmackDown, elle est bien, Est-ce qu'elle a vraiment besoin d'avoir James Ellsworth dans les pattes? Je suis pas sûr.
Non, on n'est pas sûr. On va voir quel programme ils ont pour le gaillard là. C'est vrai que ça ressemble beaucoup à ce qu'ils ont déjà fait. Donc on espère qu'ils vont réussir à se renouveler au moins. Mais je suis d'accord avec toi. Je suis content de revoir James Ellsworth. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il est. Enfin, j'aime bien la tête. En fait, j'ai adoré la tête qu'il a faite quand il s'est
Et
dévoilé la
genre,
première
et ouais,
fois.
c'est moi.
C'est ça. Et puis, je le trouve drôle. Il était saoulant
Non mais oui, il est
qu'il avait
drôle.
un petit peu, on va dire, pris le contrôle de la scène, enfin, autour du titre, quand il y avait AJ Styles et Dean Ambrose. Ça, c'était peut-être un petit peu pénible. Mais bon, effectivement, ça reste un bon personnage. Mais c'est vrai que. Là où je suis d'accord avec toi, c'est que Carmella, finalement, elle avait réussi à faire son bout de chemin toute seule. Justement, après le départ, hein, de James Ellsworth, elle avait quand même
Ouais.
finalement réussi à monter d'un cran dans son personnage, jusqu'à récupérer cette ceinture. Donc, effectivement, j'ai du mal à voir exactement le besoin qu'a éprouvé
Ouais,
la
c'est ça en fait qui
WWE.
se
Qu'est-ce qui
perd
les a
aujourd'hui.
vraiment motivés à faire revenir James Ellsworth? À la limite, si ça avait été presque le coup d'un soir, comme qu'ils avaient fait venir le Great Khali, tandis que
Oui,
pour un
ouais,
pay-per-view, parce que par
pourquoi pas.
exemple, il était de passage dans la ville, j'en sais rien. Là, maintenant, il va falloir construire avec lui. Donc, écoute, une affaire à suivre, mais en tout cas, Carmella a effectivement bien délivré une super promo, même si. Voilà, va falloir faire attention un petit peu, Raw, SmackDown, là, les auteurs, va falloir un petit peu
Oui.
se. On l'a déjà dit, on se souvient encore de l'arrivée de The Absolution et
Oui,
du Riot Squad qui était.
c'était troublant.
C'était, voilà, là, une fois de plus, on ne sait pas si c'est les mêmes qui sont à court d'idées ou s'il n'y a pas de communication, mais attention, attention, parce que voilà, il y a des gens qui regardent les deux shows, donc c'est pas la peine de nous proposer deux fois la même chose. On reste dans la vision. Féminine. L'iconique duo débarque et compare la ville de Toledo à un zoo. Ça pue comme Becky Lynch. Alors de là à dire que les roues puent, je ne sais pas, mais
Oui, je ne
voilà,
sais pas,
c'est
écoute,
bizarre.
je n'en passe pas.
Imitation évidemment de Becky Lynch hein, par Peyton Royce qui mime voilà encore une défaite hein, à Money in the Bank. Becky Lynch, tristesse, mais bon, on s'en doutait. Elle sera toujours le sidekick hein, dans l'ombre de Charlotte. Ça ne plaît pas à Becky Lynch. D'ailleurs, elles ont un match, toutes les deux, Billie Kay, face à Becky Lynch. Alors, Becky Lynch, elle fonce dans le tas. Hein. Il y en a marre. On retrouve un peu la Becky Lynch qu'on aimait tant, celle d'il y a 2 ans, qui fonce dans le tas, qui a le vrai feu en elle. Petit chipshot hein, de Peyton Royce pour retourner un peu à l'avantage des méchantes. La heel reprend le contrôle. Mais à la fin, c'est bien Becky Lynch qui gagne en plaçant le disarmer pour la victoire. Une victoire de Becky Lynch qui avait placé un petit crossbody là sympa là, en dehors du ring. C'était plutôt pas mal. Bon voilà, Becky Lynch. Un programme, c'est tout ce qu'on demandait. Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on est dans un programme pour Becky Lynch ou est-ce que c'est encore un petit goût de remplissage?
Je sais pas, écoute, si potentiellement quand même. Je pense qu'on est peut-être sur les débuts d'un programme qui va l'emmener vers Charlotte, parce que voilà, ça a quand même été un peu teasé pendant le Money in the Bank, qui était, écoute, ma foi, alors. J'allais dire qu'était ma foi assez sympa ce Money in the Bank féminin. Bon, moi j'ai trouvé moins bien que celui des mecs, mais c'est parce que ça reste encore un peu brut. Mais elles s'en sont quand même bien tirées. Modulo quand même. Il y a eu un gros bug de Becky Lynch à un moment là dans le
Ouais.
Money in the Bank là, qui a pas décroché la mallette alors qu'elle aurait pu. Limite elle l'a décroché, elle
Alors
l'a remis dans
ça,
le
je l'avais
mousqueton.
expliqué par le fait qu'elle était tellement pas habituée à gagner qu'elle était tétanisée par la victoire, la peur de gagner,
Ouais, il
et
y a
c'est ça qui
ça,
lui
et
a
puis
coûté la victoire.
il y a aussi qu'il y a un moment, il y a Naomi qui était toute seule en haut de l'échelle pour décrocher le truc, et Becky Lynch qui aurait dû venir contrarier ses plans, était occupée à
Bah
faire des
ça, je
souplesses en dessous.
l'explique par la
Ah, tu
rage de
l'expliques aussi.
vaincre de
Ok, d'accord.
Kylian.
Bon, tant mieux, donc je suis rassuré, si tu as pu tout expliquer, ça me
J'ai
rassure, donc
tout
c'est bon.
expliqué.
C'est
Voilà.
parfait.
Est-ce que c'était convaincant? Je ne sais pas. De
Je ne
mauvaise
sais
foi, sûrement.
pas.
Qu'est-ce qu'on ferait pas
Non,
pour la
mais.
rouquine?
Ce petit match était pas mal. Becky, j'avais au début, je misais mon cœur sur Becky Lynch. Bon, finalement, j'ai changé d'avis dans mes pronostics pour quelque chose de plus sage et pour Alexa Bliss, qui me semblait du coup plus évident quand même.
Ah, t'as une défaite là. Hein.
Mais je trouve qu'ils s'en sont bien servis pendant le match. Parce qu'en fait ils ont un peu construit le match autour de spots qui donnaient au public l'impression qu'elle pouvait gagner et du coup un crève-cœur à chaque fois quand elle montait l'échelle, t'avais le public qui était sur ses debout les bras en l'air à dire allez Becky et tout, et à chaque fois elle était coupée court au dernier moment. Il y a eu ce petit teasing avec Charlotte pendant le match qui était pas mal. Donc je trouve que ça a été quand même pas mal parce que ça l'a mis quand même. Enfin, elle était bien en lumière pendant ce match-là. Et encore une fois, voilà, on essaye de frustrer un peu le public, lui donner ce côté. C'est presque une sorte de Daniel Bryan au féminin, Becky Lynch. Hein, elle est quasiment. En fait, elle est indestructible. En fait, j'ai l'impression un peu dans sa pop, elle, dans le sens où le public sera toujours derrière elle, même si elle perd. Elle est ultra adorée. Donc ils se servent quand même pas trop mal de ça dans les matchs, dans ce type de match, je trouve, justement pour mettre de l'emphase sur des moments assez intenses. Mais donc voilà, donc il y a eu ce teasing un peu avec Charlotte, et puis là la promo des Iconics, c'était quand même du coup voilà le sidekick, tu vas rester le sidekick de Charlotte, tu vas rester dans l'ombre de Charlotte. Je pense qu'il y a quelque chose qui se dessine quand même. On fait gagner Becky Lynch, on la fait pas gagner par hasard, on lui garde du momentum quand même avec cette petite victoire sur Billie Kay, qui était bien vue.
Alors le timing est un peu bizarre parce que souviens-toi, la semaine dernière, elle a battu Charlotte à la régulière,
oui.
Juste avant le Money in the Bank. Donc le timing de dire tu seras toujours à sidekick alors qu'elle venait de la battre,
oui.
C'était un petit peu.
Tu sens qu'en fait là, il y a, à mon avis, c'est un peu une, là la petite graine plantée avec cette promo, c'est en fait je pense qu'ils prennent pas trop en compte ce qu'ils ont fait avant. Ça met un peu en évidence le fait qu'avant Money in the Bank, et c'est valable pour toutes les divisions, on était dans une sorte de grosse compétition un peu qui n'avait pas trop de sens, et on attendait Money in the Bank pour rebooter un peu toutes les storylines, ce qu'on va voir d'ailleurs plus tard dans l'émission. Donc en fait, je suis complètement d'accord, tu soulèves une incohérence qui est tout à fait valable. En effet, ils auraient peut-être pas dû la faire gagner juste avant le Money in the Bank et tout comme ça sur Charlotte. Mais en fait, je pense que quand Billie Kay dit ça, ils sont passés à autre chose, dans le sens où ça y est, ils veulent peut-être lancer peut-être un programme qui va venir avec Charlotte. Donc ils partent du principe que voilà, Becky Lynch est en dessous de Charlotte, qu'il va falloir qu'elle se rebelle et qu'elle révèle son côté qu'elle a perdu. Donc on repart un peu à zéro à ce niveau-là. Et bon, peut-être qu'ils s'en souviendront, et peut-être que la défaite sera utilisée plus tard, la défaite de Charlotte. Mais bon, je pense qu'en effet, ils l'avaient plus trop en tête, je pense. Mais...
Ouais. Bon, en tout cas, voilà, Becky Lynch qui a amené un petit peu à être un peu plus présente, à gagner un peu plus souvent.
Mais je pense, ouais, je pense. Ouais.
Et pourquoi pas aller chercher un title shot à un moment donné. Hein. Je pense qu'elle se place là, hein, Becky Lynch. En tout cas, voilà, une petite victoire. Tu parlais de nouvelles storylines qui sont lancées. Moi, j'ai surtout envie de parler de nouveaux arrivants qui débarquent enfin.
Eh oui.
Puisque ça y est, c'est fait. Sanity est là. Sanity est enfin arrivé. On les a vus, je veux dire, en vrai, ils étaient vraiment là entre les cordes. On a vu les trois. Alors, que les mecs. Hein. On aurait pu croire que Nikki Cross a prêté. Enfin, voilà, qu'ils les avaient pas fait monter parce que peut-être que finalement Nikki Cross allait les rejoindre. Voilà, un rêve un peu pieux, un rêve un peu fou, puisque non, hein, les Sanity sont là tous les trois. Alors, j'ai trouvé ça bizarre. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. J'ai pas été content, en fait.
Alors,
pas satisfait de leur entrée. En fait, ils l'ont fait trois entrées différentes, trois arrivées différentes. Je sais pas si c'est parce que ça fait 8 semaines qu'ils nous en parlent, et du coup, il fallait maintenant bien le dire et le répéter, le crier qu'ils arrivaient. Mais on a eu l'annonce par les commentateurs.
Ah oui.
À la table des commentateurs qui nous ont expliqué, ah ça y est, Sanity, ils sont là ce soir, qui sont-ils? Eric Young, c'est le chef, Kellyanne Danwell, c'est le gros costaud, et Alexander Wolf, c'est le fou. Enfin voilà, c'est bon, les mecs, ils ont bien décrit qui est qui, quoi. Après, on a eu une petite vidéo vignette là, backstage, où
on voyait que leur ombre.
On voyait leur ombre, et puis ils balançaient des trucs, genre on apporte le chaos, etc., je crois. Voilà, des genres de vignettes dont on avait l'habitude à NXT avec eux. Et en plus, troisièmement, on annonce un match face aux Usos. Donc c'était trois manières différentes de les annoncer. Est-ce qu'ils auraient pas pu en choisir une seule, toi? Ça, c'était un petit peu
Ah,
dommage.
écoute, ouais, je sais pas, c'est vrai que je l'ai pas ressenti de cette manière-là. Moi, pour moi, c'est un peu le grand classique de. Alors, c'est plutôt un procédé qu'on voit à Raw quand il va y avoir dans la deuxième heure un gros segment. Tu peux être sûr que à chaque coupure, ils vont te remettre une couche. Attention, tout à l'heure, next ou machin. Vous aurez ci, vous aurez ça.
Ah mais là c'était les trois d'affilée quasiment, toi. Enfin c'était pas tout au long de l'épisode. Hein.
Bah c'est ouais non parce que le show est plus court alors
Bah
du coup
oui, je vois. Il y avait une coupure pub à chaque fois, mais à part ça.
donc non c'est vrai que ça m'a pas choqué parce que c'est un peu du ouais c'est un peu le classique c'est en fait ils ont voulu traiter leur arrivée comme étant un gros truc quoi donc bah du coup voilà attention restez bien sur vos sièges ne zappez pas parce que Sanity la bande de tarés arrive et il faut surtout pas que vous fassiez ça donc non je l'ai plus vu comme une pub certes un peu grossière, mais voilà, de la grosse propagande. Attention, ils
La
arrivent.
propagande.
Moi, ça me donnait plus le sentiment que du coup, c'était un big deal, quoi. C'était très
Ouais.
important.
Alors moi, je vais t'apporter un contre-argument. Du coup, c'est le gimmick. Tu vas me dire si tu es d'accord avec moi. Le gimmick de Sanity, c'est des mecs. C'est le chaos, toi. Ils viennent pour apporter le chaos et foutre le bordel et ils répondent à aucune règle et ils sont là pour foutre le dawa. Donc, le fait de les annoncer en grande règle, toi, enfin. En grande pompe, ils ont leur petit écran, on leur a déjà prévu un match, etc. J'ai trouvé que ça ne
Toi, tu
correspondait.
t'attendais, ouais, à une invasion chaotique, quoi.
Bah oui, une invasion chaotique. Et l'invasion
Ah, mais...
chaotique, on l'a un peu prévu, puisque je vous ai donc dit hein, qu'il y avait un match contre les Ouzo. Donc les Ouzo débarquent. En plus, les Ouzo débarquent, ils coupent une promo. Alors, promo que j'ai beaucoup aimé. Ils ont
Très
rappelé
sympa.
comment eux, quand ils sont arrivés en fait. Eux aussi ont eu leur première arrivée. Donc du coup, ça collait bien, toi. Une fois que t'as dégonflé la baudruche, effectivement, ils arrivent, donc on va faire une petite promo autour de ça. Les Ouzo, pour se faire un nom, pour se faire remarquer, ils avaient ce gimmick de mec un peu festif avec de la peinture, se plein le visage,
Oui, ça c'est sûr.
petit clin d'œil à l'Ultimate Warrior, puis après ils ont fini par trouver leur style, celui qu'on connaît aujourd'hui, ils ont fait leurs preuves, etc. Avec le cœur, ça venait du cœur, quoi. C'est comme ça que ça marche. Et là, donc, Sanity débarque avec leur entrée officielle. Alors, ce qui était chaotique, c'était les caméramans, hein, parce
Ah
que juste.
putain, m'a foutu la gerbe les caméras.
Ils vont trop loin. Là, voilà, ça
Hein.
c'est
C'est trop, c'est trop ça.
typique du passage à NXT au main roster. On en fait des tonnes. Il n'y a plus de subtilité. Du coup, là, c'est le chaos, c'est effectivement filmé n'importe comment. Donc, c'est marrant, puisque pendant la review du pay-per-view, j'ai fait un gros reproche qui était, je trouvais qu'à l'heure actuelle, la réal était pas bonne. La réal n'était pas bonne.
Je suis assez d'accord.
Particulièrement dans les matchs
Ouais.
où ils sont toujours à contre-temps, ils filment de dos, ils sentent pas les prises arriver, ils sentent pas les coups arriver. Et là, bah, là c'est pareil, ils ont voulu faire un truc chaotique, mais c'était too much, quoi. C'était vraiment too
Mais il
much.
y avait des. Ouais, non, mais moi j'ai trouvé que leur entrée c'était. Enfin, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte parce que je trouvais que c'était vraiment la cata.
Ouais.
Enfin, la caméra.
La
T'avais.
musique
T'avais...
aussi était m moins
Oh non, bah,
bonne. Le
je... Non?
mixage
Ah
était.
bon?
Je sais pas si la musique
Ah, la
était un
musique, ça m'a pas
petite
choqué, j'ai bien
variation.
kiffé, moi.
Mais il y avait moins de bâches, je sais pas, c'était un petit peu poète-poète,
Ah,
quoi.
peut-être, ok. Mais non, mais les jeux de caméra, enfin, il y avait des trucs, parfois, c'était tellement grossier, j'avais l'impression de. Enfin, Ringside, il aime pas à chaque fois, mais parce que le travail de caméra et la réal, je trouve, à la New Japan, et c'est vraiment horrible. Et il y avait des moments où j'avais l'impression de regarder un truc de la New Japan où, tu sais, genre, quand
Ouh,
il.
la bombe est lâchée.
Ah non, mais quand il filme en ultra gros plan d'en dessous du tablier du ring là des mecs ou qu'ils les suivent un peu de super proche ou alors le zoom des zooms du ring là super rapide aussi des trucs où vraiment t'as l'impression que ouais c'est un gamin de 10 ans qui tient la caméra et qui teste un peu les boutons c'est un peu n'importe quoi quoi. Mais en fait ça donne pas du tout une impression de chaotique, ça donne juste un truc où c'est chiant, enfin c'est horrible à regarder quoi. Donc non, il ferait mieux de faire. Déjà moi je trouve que les jeux de lumière ils sont suffisants en fait, ils sont pas mal hein, vraiment le plonger dans l'obscurité avec quelques flashs les flashs de police un peu là voilà des hélicoptères là qui passent de temps en temps ce qui fait qu'un coup ils sont dans le noir,
Apparemment,
un coup
c'est
ils
des
sont éclairés.
vrais hélicos hein, qu'ils avaient.
Ah, c'est pratique ça,
À
ça
l'intérieur de l'arène.
à l'intérieur de l'arène, c'est bien ça. mais du coup, ça, tu vois, ça suffit, ça. Voilà, il n'y a pas la peine de faire des trucs de caméra comme ça. Bon, bref. J'espère qu'ils s'en rendront compte. C'est comme les promos selfies avec les textes en karaoké. Ils s'en sont rendus compte, ils ont arrêté. Bon, peut-être que ça, j'espère qu'ils vont s'en rendre compte.
Ils mettent du temps parfois à se rendre compte,
Oui,
c'est ça le
parfois, ils se
problème.
mettent un peu de temps. Ils mettent un peu de temps dans ces chiens.
Du coup, bah, les mecs, ils viennent pas pour faire leur match, ils viennent pour marquer le coup, make a statement, et donc ils passent à tabac les Ouzo. Alors, je crois que ce sont, je sais pas, j'ai entendu quelqu'un, j'ai relu comme quoi c'était les Ouzo qui avaient attaqué en premier, ça m'a étonné.
Ah non, ah bah
Ah,
non,
on est d'accord.
ils se sont fait sauter dessus. Non,
On
non.
est d'accord. J'ai entendu quelqu'un me dire, oh, les Ouzo, c'était bizarre, les Ouzo ont attaqué en premier. Je suis, mais attends, j'ai pas du tout, je me souviens pas du tout de ça. Non, ce sont bien les rois du chaos, de la caméra qui fait vomir. Killian Dane, Wolf et Yang qui attaquent les Ouzo avant même que le match ne commence. Il les passe à tabac.
Bah, tu
Killian
l'avais ton KO là.
Dane, ouais, Killian Dane a placé une Vader bombe. Et
Oui.
ouais, donc
Eh oui.
voilà, RIP, comme on dit, Vader qui donc est passé de l'autre côté du miroir. Et donc voilà, ça y est, on y est. Au moins, c'est le seul truc que je me suis dit, parce que clairement j'étais en mode un peu facepalm quoi, dans cette séquence, je me suis dit, allez, voyons le bon côté des choses. Sanity est là, enfin là.
Mais oui,
C'est
c'est ça qu'il
presque
faut se
tout ce qui
dire.
reste. Et dans un probable programme, au moins
Ah bah oui, très clairement. Oui, oui,
de niveau quoi,
ah bah
avec
de
les Ouzo
super
quoi.
niveau, ouais. Ouais, de super niveau. Non, non, c'est... Bah écoute, moi c'est vrai que j'avais peut-être pas la même attente sur l'arrivée, donc du coup j'ai pas du tout ressenti ça. Moi j'ai adoré de bout en bout, à part cette entrée complètement foireuse là. Mais j'aime bien parce que bah parce que voilà, c'est quand même une entrée en grande pompe contre une équipe ultra importante. D'ailleurs, la promo des Usos les met vachement en valeur parce que voilà, on sent dans la promo des Usos que Sanity il s'attaque pas à n'importe qui pour leur match d'ouverture quand même. Donc c'est quand même très costaud. Et donc du coup c'est bien aussi parce que on les fait rentrer dans un programme qui est à la fois en fait qui est très solide et qui est en même temps loin des ceintures.
Oui.
Donc parce que c'est vrai que voilà l'affrontement est quasi inévitable avec les champions quand tu vois le profil de Sanity. Mais du coup c'est bien voilà on a vraiment des programmes très distincts du côté des tag teams, même plus que distincts, on le verra un peu plus tard aussi dans l'émission. Et donc voilà
Les
c'est
tag
bien.
teams, on les voyait plus trop là, on les
Voilà,
aura beaucoup vus ce
exactement.
soir.
Donc voilà, donc c'est quelque chose. Je trouve que c'est plutôt habile comme première association. En plus, les Usos, c'est des vétérans hein, du main roster, donc je trouve que, enfin voilà, c'est parfait. Ça va nous donner de très bons matchs, de très bons petits segments, belle opposition de style. Écoute, moi pour moi, c'était une belle entrée en matière. C'était moi.
Super. Bah écoute, on va rester division tag team. Harper Rowan dans un rematch ce soir face à Anderson et Gallows. Ces putains de rematch qui ne sont pas justifiés. Les
Non, mais
fameux
ça, en fait,
rematch.
je pense qu'il faut arrêter de mettre des matchs en pré-show, si, parce que, en fait, c'est, je pense que les
Exactement.
pré-shows, ils s'en foutent, en fait. C'est surtout ça, quoi.
Ouais, c'est vraiment ça. C'est qui dit match pré-show, t'as 4 chances sur 5 que tu aies le
Sûr.
même match le lundi, quoi, ou le mardi. Donc c'est complètement idiot, mais bon, allez, hein, pourquoi pas, c'est reparti, on y retourne. Donc Harper Rowan qui vont dominer les Good Brothers, Karl Anderson est allongé, donc où on se concentre sur Luke Gallows qui a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup trop
Beaucoup d'huile.
d'huile, puisque on est connecté. L'impression qu'on fait un podcast depuis 2 ans ensemble.
Peut-être, peut-être, je sais
Puisqu'il
pas.
glisse sur le turnbuckle, il galère, hein, à un moment, il y a un spot où il doit se poser en haut du turnbuckle pour faire une souplesse depuis le turnbuckle, il glisse, il galère, etc., etc. Donc il a mis beaucoup, beaucoup trop d'huile. Et à la fin, Anderson fait le tag-in, donc pour faire le hot tag. Donc il parvient un petit peu à foutre le bordel, mais les Blue John Brothers, ils sont trop forts. Ils sont trop grands, ils sont trop barbus, ils ont des marteaux. Powerbomb, Anderson est allongé pour le compte de 3. Nos champions SmackDown conservent le titre. Et effectivement, quel programme pour les deux? On verra. On a d'un côté Sanity, qui pourra à un moment venir, mais pour l'instant, ils sont occupés avec les Ouzo. On verra un peu plus tard qu'il y a des drôles de pistes qui vont être
Il y a une
lancées.
très drôle de piste, hein, oui.
En attendant, est-ce que tu as kiffé ce petit match?
Écoute, ouais, franchement, si j'exclus le fait que c'est un rematch complètement venu
C'est
de
ça.
nulle part du pré-show, en plus je l'ai pas vu, donc j'ai pas regardé le
En
pré-show.
fait, du coup, c'est une bonne idée, ces rematchs.
Bah ouais, c'est bien, tu vois, parce que si tu regardes pas le pré-show, du coup t'es content, tu as ton petit rematch derrière. Non, mais si on exclut ça, en fait moi j'ai plutôt bien aimé le match. Je trouvais que c'était assez fun. J'ai trouvé que les Good Brothers avaient fait bonne figure dans ce match, surtout Karl Anderson que je trouve assez en forme là. Donc c'était assez sympa et puis voilà la puissance des Bludgeon Brothers toujours aussi efficace. Donc ça donne une victoire. C'est évidemment pas un classique tag team et on se souviendra plus du match la semaine prochaine, mais en fait, moi, ce que j'aime bien dans ces petits matchs comme ça, et la façon, généralement, c'est un peu une constante dans les matchs des Bludgeon Brothers. Je trouve que c'est, à chaque fois, c'est pas mal comment ils font leur truc. Peut-être que ça plaît pas à certaines personnes, ça, mais moi, j'aime bien, c'est qu'en fait, souvent, leurs challengers sont toute voile dehors au début et essayent, voilà, de les prendre et de leur mettre la pâtée. Et souvent, ils ont même des périodes où tu te dis, waouh, putain, ils sont costauds. Et généralement, en fait, on survend un peu les challengers. Et souvent, le match est quasiment toujours de la même façon. C'est que, soudainement, poum, genre, coup de la corde à linge, bam, bam, powerbomb, terminé. Certains me diront, bah oui, bah, c'est de la merde, machin et tout. En fait, moi, j'aime bien parce que, en fait, je trouve que ça donne une sorte d'aura aux Bludgeon Brothers qui sont qu'en fait, les challengers ont beau être incroyables et sortir leur A-game et être au top du top. En fait, ils sont tellement forts que bah finalement la moindre erreur, il suffit qu'ils reprennent l'avantage 2 secondes et c'est terminé.
Mais c'est un profil de méchant, de super méchant.
Ouais. Et je trouve que c'est assez efficace
dans les jeux vidéo, dans je sais pas Dragon Ball Z, tout ça. Ils vont tous arriver, ils vont faire tout leur
tout leur power move et tout là, bam bam.
Et puis en fait le nuage de fumée se dissipe. Les gros méchants sont toujours là, ils ont un peu vacillé mais pas trop. Et là boum, ils mettent une grosse claque et l'autre il envoie Valdingue.
C'est exactement ça, c'est parfait comme comparaison. Et du coup, je trouve que voilà, ça leur donne ces petits matchs comme ça à droite à gauche, ça leur donne une sorte d'aura qui fait que bon, c'est vrai qu'on les voit pas souvent, mais en fait, à chaque fois qu'ils sont dans un ring, bah en fait, t'es un peu impressionné parce que tu te dis waouh, enfin en fait, ouais, il y a rien à faire quoi. Ouais. Donc bon, j'exagère, je survends le trait un peu parce que bon, ça reste, c'est les Good Brothers, c'est un match en weekly, ils ont pas non plus été construits comme des brutasses et tout. Mais voilà, je trouve que c'est le genre de petit match qui est assez efficace pour redonner un petit peu de peps aux champions. Mais après il y a un petit point moi qui m'embête, c'est dans l'histoire, c'est vrai que c'est les Good Brothers en fait, je sais pas s'il va se passer grand chose pour eux. J'avais des espoirs avec ce shake-up, je me dis c'est l'occasion de les reboot un peu. Et je suis partagé sur leur cas parce que tu vois là il y a une petite vignette avant le match, tu l'as dit, Luke Gallows qui a mis beaucoup trop d'huile, c'était très drôle parce que ils ont eu une petite vignette où tu voyais Luke Gallows qui avec un élastique là qui se faisait les biceps avec tout plein d'huile et qui montrait les abdos, qui disait vas-y Good Brothers, vas-y Karl, monte tes abdos et tout machin. En fait, il y avait un petit côté un peu 80s beauf à la c'est quoi leur série là dans laquelle ils jouent
Southpaw Wrestling.
Oui, voilà, il y avait un petit côté Southpaw Wrestling,
mais
je trouve
oui,
dans cette
et
vignette.
Ça leur va bien.
Et ça leur va bien. Et en fait, c'est paradoxal parce que ça leur va bien, j'étais mort de rire devant la petite vignette et en même temps, je me dis fait chier parce que ils sont un peu coincés, enfin en fait, ouais, je pense que les badass du Japon qui vont tout casser, on les aura pas quoi. Enfin,
on les aura pas.
Ouais, on les aura pas.
On les aura pas. Hein. Ils ont chopé le titre à Raw, là, on sait pas trop comment ils avaient fait. Là, c'est pareil. Hein. S'ils touchent au titre, il y a les probabilités.
Bon, faut accepter que voilà, c'est ça qui leur va peut-être le mieux.
Ouais, c'est ça. Hein. C'est de la mid-card. Voilà. Ils sont très bien où ils sont. Et puis il y a du monde. Hein, faut dire à SmackDown, hein, on n'a pas vu Sheamus ni Cesaro.
Oui, The Bar a disparu. Cesaro, je ne sais pas ce qui se passe.
Attends, challenger, on va dire temporaire. Hein, j'aimerais bien que Sheamus et Cesaro aillent se frotter un peu aux Bludgeon Brothers, parce que les Bludgeon Brothers, ils sont gentils, ils disent qu'ils ont éliminé toute la concurrence, mais bon, oui et non quoi. Donc ça pourrait être sympa. Allez. Juste avant d'arriver au main event, on va parler juste d'une petite vignette, deux vignettes même. La première, c'est Jeff Hardy qui est de dos, caméra, qui a tête tournée et qui nous baragouine des trucs. Franchement, j'ai pas noté, mais si tu te souviens de ces mots, ça sera sévère.
C'était très étrange. Il a dit que, grosso modo, il avait le Kinshasa qu'il avait pris la semaine dernière, du coup, lui avait frappé la tempe, qui avait fait résonner l'hémisphère, occipital de la boîte crânienne, qui était allé jusque dans les connexions de ses. Enfin, il a sorti plein de termes ultra scientifiques et tout. Et du coup, qui lui avait fait ouvrir les yeux.
Il a son maquillage avec des yeux
Il m'a bien fait flipper,
dessinés sur ses paupières. quelque chose
en
qu'on a
bois, en
déjà vu à la
fait.
TNA, il me semble.
Ah bon?
Ouais, les experts de la TNA pourront me confirmer ou non. Et donc il ouvre après ses yeux et là il a des lentilles un peu creepy, un peu toile d'araignée là, enfin un peu bizarre. Et il fait peur. C'est marrant parce que j'ai vu la veille, j'ai regardé le fameux 24 consacré au Frangin Hardy qui a été
Ouais.
diffusé juste après Money in the Bank, qui est super, je vous le conseille. Ils vont très très loin
Oui, c'est top, c'est.
dans l'histoire, dans l'envers du décor, parlant des problèmes de drogue, des deux frangins, on les voit complètement shootés, complètement bourrés dans les soirées, à se faire des tripes, enfin genre ils sont en bad trip, c'est pas bien.
Ouais,
On
ils ont
voit
pas
la
peur.
fameuse séquence honteuse de la TNA, il y a beaucoup d'images de
Ah,
la
Victory Road,
TNA,
là.
voilà Victory Road avec le match contre Sting,
Sting.
où il arrive complètement shooté, ils sont obligés d'improviser et tu...
Il montre ça.
Il le montre et
Ah ouais.
tu entends même, ils ont les micros, enfin ils ont les micros, ils ont tourné le bouton volume sur ce que dit Sting et c'était qui? C'était Bischoff
Ouais.
qui était général manager quoi, enfin producteur, qui donne les indications et qui dit bah voilà Sting, tu vas faire ton Scorpion Lock là et puis cette prise
Ouais.
là et c'est fini, c'est moi qui fais l'appel, toi c'est moi qui décide, etc. Et tu les vois, et tu vois la tronche de Singh qui est triste, qui est déçu de ce qui est en train de se passer.
Ouais.
Il fait sa prise, et Jeff Hardy, il tente de kick out, mais toi, il garde le... Enfin, voilà, il garde le... Ils font le tomber. Et à la fin, tu as Sting qui repart sous le Titantron et la foule qui crie This is bullshit, this is
Ouais.
bullshit. Et Sting qui regarde le public, qui fait I know, je sais, je suis d'accord, je suis d'accord. Donc, ils ont complètement démystifié le truc.
Ah ouais, c'est assez rare.
C'est très rare, ils vont très très loin, donc voilà, si vous aimez ce genre de choses, si pour vous le kayfabe est quelque chose d'important, laissez tomber, enfin si
Hein.
c'est sacro-saint kayfabe, laissez tomber, mais sinon, c'est vraiment une super, c'est une histoire évidemment de rédemption, hein.
Oui.
À la fin, heureusement d'ailleurs, mais bon, très loin, et du coup, ça faisait écho à ça, puisqu'on revoit voilà, un nouveau Jeff Hardy, un peu reborn, qui arrive, et donc pour faire écho à ça, une petite interview de Nakamura backstage par René Young, qui donc répond un peu au challenge de Jeff Hardy, et on aura donc que ses yeux lui aussi sont ouverts, et voilà, la feud est lancée entre les deux, Nakamura pour le titre US, c'est un programme qui te convient?
Ça me va très bien, ça me va très très bien même. Nakamura a fait son temps dans la title picture. Il était très probable, voilà, qu'il prendrait pas cette ceinture à Money in the Bank. C'était même quasi sûr. S'il avait dû avoir son grand moment, moi je pense que son moment il était passé à WrestleMania. Enfin, s'il avait vraiment, s'ils avaient vraiment voulu faire quelque chose de Nakamura, ça aurait été là. Mais voilà. Il n'a pas montré, je pense, suffisamment de qualité pour continuer dans le main event de SmackDown. Donc c'est une régression, entre guillemets, logique. Et je pense que ça lui fera le plus grand bien d'aller contre un autre vétéran WWE, enfin un vétéran catch US, Jeff Hardy, dans cette petite feu de transition du coup autour du titre US. Donc c'est une excellente idée. J'ai beaucoup aimé toute l'originalité de la situation. À savoir que c'est très rare de voir une rivalité être lancée presque de rien par un face. C'est très très rare parce que finalement c'est Jeff Hardy qui réclame hein, vraiment la tête de Nakamura après bon, pas un match lambda mais presque. C'est-à-dire que voilà c'était un match de weekly. Il avait pris enfin, si, il avait pris son petit loblo je crois même pour bonne mesure mais bon. C'était pas non plus un passage à tabac monstrueux.
Oui, à ce moment-là, ça nous paraissait sans conséquences
Oui,
directes,
sans
quoi.
conséquences majeures. Et donc en fait, voilà, je trouve que c'est plutôt une belle façon d'amener les choses. J'ai beaucoup aimé moi la petite vignette de Jeff Hardy que j'ai trouvé bien flippante. Bon alors au début, c'est vrai que c'était un peu bordélique ce qu'il racontait. Je me demandais où est-ce qu'ils allaient en venir. Et c'est vrai que quand il se retourne, c'était un peu le double effet qui se coule parce que déjà quand il se retourne, il m'avait fait flipper avec ses paupières fermées là. Et puis après. C'était vraiment bien fouchu. Moi, je connaissais pas ce maquillage, donc j'ai trouvé que c'était sympa. Et on n'est pas trop. Bon, alors, je suis pas un grand expert du trip broken et tout, mais enfin, je trouve que voilà, on n'est pas exactement dans le même registre. J'aime bien. Il a l'air extrêmement dérangé, proche du mysticisme là. C'est moins comédie, on va dire, série Z. Je trouve que ce que peut faire Matt ou ce qu'il faisait à deux à la TNA. Donc, intéressant. Intéressant, et puis cette petite promo derrière de Shinsuke qui était plutôt bonne aussi, quand il rigole sur le fait que l'arbitre a pas compté en japonais.
Ouais, la mauvaise foi, c'était super.
Ouais, la mauvaise foi, ce qui est rigolo parce que ça peut avoir un double sens, c'est à la fois il a pas compté en japonais, et puis en même temps, il me semble, j'avais lu quelque part que les Last Man Standing, enfin pas les Last Man Standing, je sais pas si ça existe à la New Japan, mais en tout cas, je crois que les décomptes à l'extérieur, c'est jusqu'à 20.
Les décomptes à l'extérieur, c'est jusqu'à 20 à la New Japan, tout à fait.
Donc je me dis, c'est presque un double sens, tu vois, il a pas compté en japonais, c'est non seulement il a pas compté en japonais, mais en plus il a pas compté jusqu'à 20. Alors, enfin bref, c'est de la mauvaise foi, mais c'est ça lui va bien. Donc écoute, oui. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble.
Mais du coup, Nakamura parti, il faut un nouveau challenger pour
et oui.
aller chercher AJ Styles. Et du coup,
et à SmackDown, on n'attend pas 4 semaines.
Non, par contre, à SmackDown, on copie les idées de Raw puisqu'on organise oui. un Gauntlet match. Même si nous, quand on fait un Gauntlet match, il y a une récompense au bout. C'est pas juste comme ça
oui.
pour remplir la moitié de l'épisode parce qu'on n'a pas trop, on n'a pas d'autres idées. Non, là. 5 hommes vont s'affronter, non pas ensemble, mais à tour de rôle, pour aller chercher donc ce fameux first contender pour le titre suprême. Yes. On a donc, je le rappelle, Big E, étonnant. Ça aurait pu être Kofi Kingston, puisque visiblement, on a repris ceux qui ont participé au Money in the Bank, puisqu'il y a également Samoa Joe, Le Miz et Rusev, et Daniel Bryan, fort de sa victoire contre Big Cass, à qui on souhaite de retrouver du travail, que ça soit dans le monde du catch ou
oui.
du rap. C'est à
je
lui.
Le meilleur.
C'est à lui de décider. Oui, la W n'a pas souhaité le meilleur. Hein. Big Cass, tu
non,
l'avais
non.
pas souhaité
Alors,
le meilleur
coup, on...
à son ancien camarade. Allez, c'est donc Daniel Bryan, évidemment, l'underdog. Alors, on a vu des petites vignettes où ils s'entraînaient tous hein, dans les backstage. Daniel Bryan, donc l'underdog, hein, évidemment, qui va commencer le titre. D'ailleurs, sa petite vignette était sympa avec René Young, complicité toujours. Je dis suffisamment
ouais,
de mal
super,
à
ça.
René Young
Ouais.
pour, voilà, là, c'était plutôt sympa. Où justement, il fait, alors, tu es prêt et tout. Il fait, ah, tu crois en moi, est-ce que tu penses que tu vas gagner? Et puis elle fait, oui, je pense que tu t'es suffisamment entraîné, etc. Oui, il n'est pas satisfait. Il fait, non, c'est pas la
Ah
réponse
non.
que j'attends. Et il la pousse à dire yes, évidemment. Et il nous annonce ce qu'il va gagner, ce qui va dire qu'il va perdre. Bryan, donc, qui
absolument.
commence. Alors, comme Bryan arrive,
Oui.
en fait, ce qui se passe,
Ah
c'est
oui,
que les
ça c'est
Blue
très
John,
important.
très important, les Blue John Brothers sortaient de leur match. Hein. On vous a parlé d'autres choses entre-temps, mais les Blue John Brothers sortaient de leur match. Et les trois se sont croisés. Et comme l'ont déjà fait auparavant les frères Marteau, ils s'arrêtent, ils dévisagent le mec qui croise. Le mec qui croise est pas très rassuré. Qu'est-ce qui se passe? Ça dure assez longtemps.
Oui.
Certains. Comme moi, se souviennent alors, ont des flashs de, effectivement, ces gens-là se connaissent, Wyatt Family, il y avait eu une petite histoire. On se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et il repart, et voilà, tout le monde se sépare. On pense pas à ce moment-là que ça n'en restera pas là. Biggie vient affronter donc Daniel Bryan. On a un gros gros match hein, des deux. Biggie et Daniel Bryan, ils se sont donnés à fond.
Ah ouais,
Des
super.
soumissions. Biggie, le powerhouse, pardon, qui répond avec des gros gros moves. Daniel Bryan, qui commence déjà à avoir le torse déjà bien rouge. C'est son nouveau gimmick.
Ouais.
Flying Knee pour sonner Biggie. Attends, enfin ça c'est la fin, pardon. Mais on a eu un
Oui.
truc qui m'a fait super peur. Il y a eu un gros échange à un moment. Il y a eu le suicide dive de Biggie à l'extérieur, enfin qui a poussé Daniel Bryan à l'extérieur, qui était super. Enfin moi qui m'a fait soulever de
Ah ouais,
mon
non, mais ce
siège,
spot, il est dingue.
parce qu'en
Ouais,
fait c'est
non,
tout un enchaînement
mais...
entre les deux qui a conduit Biggie à faire ce suicide dive, pardon. Et c'était juste incroyable. Et c'est le flying knee, donc le running knee de Bryan hein, qui élimine Biggie. Rapidement là ce petite cette première confrontation
Très très bonne, très très bonne, très intéressante, très prometteuse. C'est pas anodin hein, ce petit match de Biggie, je pense. On en a parlé pendant un petit moment hein, de est-ce que Biggie, est-ce que c'est 2018? Bon, peut-être pas 2018, mais en tout cas prochainement, ça peut être son année un peu en solo. Est-ce que c'est le début hein, du push du géant du New Day? On ne sait pas, mais en tout cas, ce match était super
Gros
sympa.
spear contre la barrière. À un moment, il lui a fait.
Ah
Alors,
ouais.
j'ai essayé de retrouver. Je dis, mais quelqu'un l'a fait là, à Money in the Bank. Je sais plus. Tu sais, cette soumission où il prend la jambe par-dessus son cou et
Oui.
il le tord comme
Ouais.
ça. Et en fait, j'ai
Je
dit,
sais pas
mais
comment elle
qui a
s'appelle
fait
cette
ça? Moi non plus, je
soumission.
ne sais pas le nom. Si vous le savez dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire.
Les techniciens du chat.
Et en fait, tu sais qui l'a faite, tu te souviens? C'est Nia Jax qui l'avait faite à Ronda Rousey.
Ah oui,
Ouais,
ok,
ouais. Et
d'accord.
aussi, ouais, du coup, je lui dis, parce qu'au début, je lui dis, tiens, mais attends, c'est pas, comment il s'appelle, Big Cass qui l'avait fait. Je lui dis, oh, le gros taunt et tout. Mais non, je crois que c'est bien Nia Jax qui l'avait fait. Donc, effectivement, des grosses soumissions, beaucoup d'impact. Les deux sont vraiment bien mis sur la tronche, mais à la fin, donc, c'est bien Daniel Bryan qui reste. Et évidemment, on envoie un autre gros costaud sur la
Ouais.
tronche à Bryan, Samoa Joe. Bon, on se dit, là, c'est fini pour...
La ficelle n'est pas trop grosse, ça fait
Alors
plaisir.
on se dit, ouais, c'est terminé, là, c'est terminé pour
Ouais.
Daniel Bryan. Donc Daniel Bryan se défend ardemment, vaillamment, mais bon, il se fait sonner hein, par le gros costaud. Il arrive à sortir. Alors, et après, on a une super séquence. Séquence géniale. Ma séquence, je spoil, ce sera mon top de la soirée, où en fait les deux
Ah.
se retrouvent à l'extérieur. Sleeper hold de Samoa Joe à l'extérieur du ring sur Daniel Bryan. Et là, l'arbitre commence à compter.
Eh oui.
Pas en japonais, hein. Il compte en anglais. 1, 2, 3. Puis là, on voit Samoa Joe, il se rend compte, il fait, oh merde, merde, l'arbitre est en train de compter. Mais il se dit, ah
Ouais.
putain, je tiens la victoire. Là, Daniel Bryan va s'évanouir. Alors il tient fort comme ça, Daniel Bryan. Mais en fait, au moment où il regarde l'arbitre, Daniel Bryan a l'étincelle. Il fait plus attention, Daniel Bryan a l'étincelle, il s'appuie sur la barrière, fait
Roulade
une
un
petite
peu là
roulade
pour s'en
arrière, passe
débarrasser.
par-dessus Samoa Joe, court en direction du ring, 7, 8, 9, 10, Samoa Joe est éliminé, il s'en rend compte, et là il est énervé, il fait, oh putain le petit con, et il s'approche du ring,
Ouais,
et
c'est un
il est
peu
vraiment
ça.
pas content, et c'était super bien joué quoi, c'était super bien joué,
C'était magnifique. Ouais, je suis tout à fait d'accord.
et en plus Samoa Joe, Daniel Bryan, une autre affiche qu'on a envie de voir
Ouais,
quoi.
excellent, excellent. Et c'est très intelligent. Enfin, de toute façon, ce match était superbe, moi, j'ai trouvé, dans sa globalité. Mais très intelligent, puisque autant Biggie, Daniel Bryan, c'était un match qui était super important pour Biggie. Donc, je pense qu'ils ont pris le temps de faire quelque chose de top. Déjà, en plus, ça servait l'histoire, parce que ça permettait à Daniel Bryan d'être épuisé physiquement et tout. Ils ont bien pris le temps. Et à l'inverse, contre Samoa Joe, il y avait ce sentiment d'urgence, et en même temps, qui sert l'histoire et qui en même temps permet de pas trop en donner, parce que c'est vrai que Daniel Bryan, Samoa Joe, c'est aussi c'est une grosse 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 affiche. Ils ont donné juste ce qu'il fallait pour servir l'histoire aussi. Donc c'était très bien construit de la part des Road Agents qui ont mis en place ce match. Et comme tu l'as dit, ce petit segment à l'extérieur du ring était très très bien vu, parce que le regard de Samoa Joe vers l'arbitre, c'est pas du botch à la Money in the Bank là, ou quand ils sont en haut de l'échelle et qu'ils attendent que l'autre revienne. Non, c'est vraiment, ils regardent l'arbitre, parce qu'il est, comme tu dis, il est en train de se rendre compte qu'ils sont en train d'être comptés, et il se dit, attends, à quel moment il faut que je relâche ma prise pour pouvoir y aller, ou est-ce que je vais la voir et tout. Et en effet, Daniel Bryan en profite, c'est super, ça permet de protéger Samoa Joe, qui était destructeur là pendant ce match, et en même temps Daniel Bryan s'en sort encore, mais à quel prix. C'est vrai que là
Et surtout, il va
il est au,
se
il est au bout du
ouais, il
bout.
se jette dans la gueule du loup, entre guillemets, puisque, et c'est là où c'est incroyable, on se demande d'où est-ce qu'ils veulent en venir, est-ce que c'est le coup d'un
Eh
soir,
oui,
les Blue
eh
John
oui.
Brothers sont là, ils
Incroyable.
apparaissent et ils démonte Daniel Bryan, il l'allonge sur le sol. Alors, on ne sait pas ce qui les a motivés, on ne le saura pas ce soir.
Saura peut-être
On ne
jamais.
saura peut-être jamais. Est-ce que t'as une théorie? Pas de théorie. Est-ce que c'est simple,
Honnêtement,
un mauvais regard?
en fait, je sais pas, mais ce que quelque chose, enfin, en tout cas, mon avis sur la question, c'est que c'est pas forcément nécessaire que ce soit autre chose que ça, en fait. Je pense que ça pourrait tout à fait n'être que ça. Les Blood John Brothers ont un profil qui est suffisamment, enfin, ils ont un caractère ou un comportement qui est suffisamment erratique, complètement. C'est pas la première fois, hein, ils sont connus pour taper un peu sur tout ce qui bouge dès qu'ils en ont l'occasion. Écoute, ce regard de traviole, entre guillemets, là, un peu en mode, en bas de, enfin, regard
Et
court de
surtout que Daniel
récré, ouais,
Bryan
quoi,
est
quoi.
resté longtemps en fait. Tu vois,
Oui,
c'est plus ça, c'est vraiment le côté combat dans le regard.
ouais, écoute, ce regard pourrait suffire, je trouve, comme justification de dire, écoute, moucheron, là, t'es marrant là, à interrompre notre entrée, mais voilà, écoute, ça pourrait suffire. J'adhérerais pas forcément à une théorie de dire qu'ils auraient été embauchés un peu ou convaincus par le Miz, parce que c'est vrai que le Miz, tu vas enchaîner derrière, on va en
Évidemment.
parler. Voilà, je trouve que ça collerait pas trop.
Non.
Je vois pas pourquoi les champions par équipe, qui plus est en plus des grosses brutasses qui cognent partout, auraient, soi-disant, auraient pu être convaincus d'aller cogner sur Daniel Bryan par quelqu'un d'autre. Je vois pas trop l'intérêt. Donc en fait, je pense qu'il y a pas forcément besoin de plus de justification que juste voilà ce. Daniel Bryan était malheureusement au mauvais endroit au mauvais moment, a peut-être fait une entrée mal timée et puis ça va voilà, ça va lui coûter.
Et évidemment là, on le sent venir. Daniel Bryan allongé,
oui.
Il reste deux contenders. Évidemment que c'est la musique du Miz qui retentit.
Évidemment,
qui
ce salaud.
La bave à la bouche, qui court. Et là, ce que j'ai trouvé fabuleux, c'est qu'il ne s'est pas contenté de faire le tomber sur Daniel Bryan qui était assommé. Il le relève.
Il a remis un coup.
Skull Crusher finally. Pof.
C'est ça qui est très important.
Important de dire que c'est lui qui l'a allongé et qu'il a profité.
Oui.
Il dit, c'est moi qui ai allongé, j'ai porté ma prise à Daniel Bryan. 1, 2, 3, formidable. Le Miz élimine Daniel Bryan progressivement.
Magnifique.
On rajoute une petite étape,
on y arrive,
une petite
petit
grève.
À petit.
Et c'était super, la séquence était magnifique. Magnifique.
Ah oui. Non, et puis ce qui est superbe, c'est que on te donne un petit quelque chose et on te le reprend tout de suite.
Exactement.
Terminé.
C'est
on en reparlera peut-être. On en reparlera peut-être dans 2 mois, je ne sais pas. Mais hop, on t'a acheté ça et on passe à autre chose tout de suite. Terminé. Surtout, mais c'était très bien exécuté, j'ai trouvé, parce que alors moi je sais, ok, c'était évident, mais je sais pas pour toi, mais moi quand j'ai regardé SmackDown, je voyais Daniel Bryan qui se fait donc déjà il y a la stupeur, c'est vrai, de voir les Bludgeon Brothers arriver, donc t'oublies un peu ce qui se passe, t'oublies un petit peu presque le match, il se prend cette double powerbomb, tu te dis putain, Daniel Bryan là il est foutu, il pourra pas continuer le match, et là t'entends la musique du Miz et tu te dis ah putain, non
salaud.
Ah là
tu dis
là,
ça
l'enfoiré.
Et en même temps tu dis, mais évidemment, évidemment.
Mais oui, évidemment. Et quel enfoiré. Il arrive, la bave aux lèvres, un peu là, comme le charognard qu'il est, il fonce vers le ring. Alors là, il n'y a plus de pop qui tienne, hein. Il est hué, conspué. Non, c'est super, c'est super bien joué. Et ce qui est fort, c'est de pas l'avoir gardé pour la fin. Parce que si tu gardes ça pour la fin, alors, on va parler après du choix du challenger pour le titre. Et c'est vrai que si tu gardais ce segment pour la fin, t'aurais eu que ça en tête. Et en fait, je trouve que ce qui est vraiment bien, c'est que hop, tu vois, c'est ce que je disais, c'est que on t'a remis d'un seul coup dans la tête. Ah putain, Miz Daniel Bryan, et on te l'a enlevé tout de suite après, parce que ce qui se passe derrière, c'est aussi super important. Et finalement, le show ne va pas se conclure là-dessus.
Ouais, puisque effectivement, on a donc Rusev qui arrive pour affronter
oui.
le Miz, et c'est ça, donc un de ces deux hommes qui va se qualifier pour aller chercher AJ Styles à ce moment-là. Enfin, je sais pas toi, mais j'étais en train de me dire, mais quel est le meilleur, quel va être le seul plus excitant.
Ah là, j'étais très très très, je savais pas, personnellement, je savais pas.
Ouais, les deux histoires étaient excitantes. Alors, les deux se mettent bien sûr la tronche. Alors, au début, le Miz arrive à ralentir l'action, hein, c'est sa spécialité. Mais voilà, la brute bulgare se reprend et à la fin place la collade pour la victoire de Rusev, qui aura fait un bon petit match aussi, une bonne petite confrontation avec le Miz. Globalement, de toute façon, ce gauntlet match était un très bon match.
Ah ouais, c'était excellent.
Et c'est donc Rusev, incroyable, Rusev qui se qualifie. Il est rejoint par AJ Styles. Ça, j'aime bien, il faut qu'il le fasse.
Eh oui.
Ça, voilà, je comprends pas. Enfin, ça, il le faisait jamais pendant toute la rivalité avec Nakamura. Ça,
voilà, pose tes couilles un peu, c'est toi
mais
le champion.
Oui. Viens, toi, l'homme de défi. Alors, effectivement, on aurait raconté une histoire plus qui se voulait presque plus personnelle, mais c'est pas grave. Il fallait quand même montrer. Ça faisait partie.
Faut garder son caractère quand même.
Ouais. Ça fait partie de ton caractère de champion, de fighting champion, même si en ce moment on sait que les fighting champions ça leur réussit pas trop, champion qui vient se battre, et voilà, là enfin on retrouve le AJ Styles combattant, le AJ Styles qui fait la couverture du jeu vidéo, voilà, le AJ Styles qui se montre, alors ils arrivent, on se serre la paluche entre Rusev et AJ Styles, et là il y a le petit con d'Aiden English qui veut faire la même, qui lui met un vent, ça plaît pas AJ Styles, qui met une grosse patate, et Rusev,
très sympa aussi ça,
Rusev qui regarde Aiden English, pourquoi t'as fait ça, et presque désolé toi, et toi c'est vraiment genre le parce que bon, c'est quand même, même s'il a une pop de ouf, c'est un peu censé être le méchant dans l'histoire. Mais c'est vraiment genre le méchant qui regarde son sbire, le sbire qui a voulu faire le plus malin que son chef, toi. Et le chef qui regarde fait, mais t'es con ou quoi? Faut pas faire ça, voyons. Sois malin, mince. Pourquoi t'as fait ça? Et on se termine là-dessus. Donc, on y va. On y est. À Extreme Rules. Et
Eh
Jestas
ouais.
va affronter Rusev.
Rousseff.
Premier title shot en solo pour le titre mondial pour Rusev. Qui l'eût cru?
Eh ouais, pauvre Rousseff, lui qui est enterré dans les tréfonds de la carte, personne ne
C'est
l'aime.
devenu effectivement un running gag.
Ouais, c'est devenu un running gag. Bon, moi, j'ai jamais été inquiet pour
Non.
Rousseff. Non, écoute, c'était super. Comme tu l'as dit, cette conclusion est top parce qu'elle reste en plus, elle reste dans les esprits. C'est une belle image de fin. Donc, je suis très impatient de voir. Alors que le chat s'embrase pour le Rousseff Day avec Samuel sur le
Rusev Day,
chat.
Rusev Day.
Non, c'est top. J'ai hâte de voir du coup les dynamiques pour les 4 prochaines semaines entre Aiden English, Rusev et AJ Styles. Ça va être super sympa. On a un match. On se dirige vers un match qui est quasi face contre face, hein, parce que Rusev a quasiment entériné, hein, son
C'est
turn
ça.
avec cette poignée de main respectueuse avec AJ Styles. On a retrouvé un champion avec du caractère. On a un challenger frais, nouveau, adoré du public. Écoute, les ingrédients sont réunis pour qu'on ait une super petite route vers Extreme Rules et un bon petit match de pay-per-view. Même,
J'aime
écoute, même
bien,
si
moi, ça fait
c'est
longtemps, je
si,
trouve, qu'on n'a pas eu de match de vraiment de big de superface contre un autre superface. Souvent, ces
ouais.
matchs-là, le public est bien chaud bouillant, quoi, parce que c'est baston de chant dans les gradins.
Et oui, les deux sont très over. On peut s'attendre en effet à une ambiance électrique. Donc, c'est bien vu. Après, comme le dit Samuel sur le chat, le Miz méritait
Ah.
aussi. C'est un choix intéressant. C'est vrai que on aurait presque pu se dire que ça s'écrivait presque tout seul, hein, le
Ça écrit
Miz
tout seul.
qui va vers AJ Styles. Moi, on m'enlèvera pas de l'idée que la finalité derrière, enfin le endgame, hein, c'est le Miz et Daniel Bryan qui vont clasher autour du titre, ou en tout cas après avoir privé Daniel Bryan du titre, ou en tout cas d'une manière ou d'une autre, ça aura impliqué le titre et il y aura un grand match entre les deux. Donc c'est vrai que voir le Miz se diriger vers la ceinture pouvait être le premier échelon. Et écoute, après réflexion, je trouve que c'est quand même très finement joué et très intelligent. Alors peut-être que je m'en mordrai les doigts plus tard parce qu'en fait, finalement, il n'y a aucun programme de prévu et que du coup, le Miz ne touchera jamais la ceinture et ne rencontrera jamais Daniel Bryan. Non, j'ai du mal à y croire quand même. Mais voilà, ça reprend un petit peu ce qui s'est passé pendant le match, c'est ce que je disais, à savoir que c'est très fin. Depuis le début, depuis le retour de Daniel
C'est
Bryan, il y
fin,
a ce
c'est
jeu
très
en
fin, ça se
parallèle.
mange sans fin.
Ça se mange sans fin. Depuis le début, depuis qu'il est revenu, Daniel Bryan, on les fait soigneusement s'éviter, sauf à des rares occasions où on nous distille comme ça toutes petites graines qui vont construire cette rivalité qui explosera plus tard, où quand le Miz était arrivé après le shake-up à SmackDown, il avait fait une promo en disant « Ah oui, ce que vous attendez tous, ce que vous attendez tous, machin », et en parlant de Daniel Bryan, et en fait il avait invité Big Cass à Miss TV, quand Daniel Bryan avait été clearé, c'est vrai qu'il avait fait une promo en parlant du fait qu'il voulait que le Miz vienne à SmackDown, et puis bah là du coup maintenant leurs chemins encore une fois se croisent,
Là,
mais
il en
très
fait
légèrement.
référence aussi, puisque dans l'interview de René Young, j'en ai pas parlé, il dit, ouais, je vais devoir affronter trois des
Et
meilleurs
oui.
superstars de la WWE. Puis elle fait, mais non,
Et il mentionne pas le Miz.
et puis il manquait le Miz. Il fait, non, oui, j'ai dit les trois meilleurs, j'ai dit les meilleurs.
Ouais. Donc à chaque fois en fait c'est des petites choses, mais jamais
Jamais de confrontation directe, quoi.
voilà, on fait pas exploser le truc. Et donc là pareil, cette interaction physique qu'il y a eu là, le Miz qui capitalise, c'est
C'est ça.
vraiment voilà, hop, on se dit ah ça va partir, non, on le reprend tout de suite. Et finalement on le reprend tout de suite et on change complètement le focus parce que finalement, on est là à la fin de l'émission, on est là en train de se dire, ah mais merde, attends, qu'est-ce qui va se passer entre Daniel Bryan et les Bludgeon Brothers? Le nouveau challenger pour le titre, c'est Rusev contre AJ Styles. Et finalement, hop, Miz contre Daniel Bryan, ça a disparu et ça reviendra. Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'était magnifiquement fait. Ce gauntlet match mais il était bien fait, voilà, il était bien construit à tous les niveaux. Moi, je trouvais que ce match était génial, il racontait plein de choses, donc c'était super, magnifique.
Ça va devenir une spécialité là. Ils ont des matchs, des stipulations comme ça qu'ils arrivent bien à écrire en ce moment. D'ailleurs, tu sais, il y avait le Money in the Bank. Je sais pas si tu m'as dit que tu avais beaucoup aimé le Money in the Bank masculin. Il y avait aussi
Oui.
hein, cette volonté de raconter vraiment une histoire au-delà de la stipulation ou à partir de la stipulation avec.
Oui, c'est ça. C'est que c'est pas juste, on va chercher la mallette. Il y a des
C'est
sous-histoires.
ça.
Il y a des, il y a presque des chapitres. En fait, c'est vrai que c'est des matchs longs qu'ils découpent un peu comme des chapitres. Et je trouve qu'ils le font. Enfin, en tout cas, quand ils le font bien, c'est vraiment super plaisant à regarder. Et tu vois pas le temps
Non,
passer.
ça
Et
a
c'est vrai
duré la
que
moitié du show quasiment, hein.
Et ça a duré la moitié du show, ça a duré 40 minutes, et en fait, moi, j'ai pas vu le temps
Non.
passer, j'ai regardé ce match, je me suis éclaté, et très honnêtement, je pense que ça, c'est probablement le match de weekly que j'ai préféré cette année, j'ai trouvé que
Oh,
c'était
il se tient là, t'as
super.
raison, il se tient là. Bah écoute,
Ouais.
on balance des compliments, du coup, c'est. Ça tombe bien, puisque c'est l'heure du mot de la fin. Giscal, si tu veux bien partager avec nous ton top, ton flop et ta note, s'il te plaît.
Alors, mon top, comme ça on va l'évacuer tout de suite. Moi, c'était ce Gauntlet match que j'ai trouvé génial. Mon match de l'année en weekly, par sa construction, par son découpage, peut-être le début de l'exposition en solo de Biggie, le très intelligent segment entre Brian et Samoa Joe, l'intervention complètement what the fuck-esque là de Bludgeon Brothers, ce finish avec Rusev, tout était parfait. Donc, c'est un modèle du genre, donc ce sera mon top. Même si j'aurais pu donner à pas mal d'autres segments cette semaine. Et écoute, mon flop,
Pas de gros flop.
j'ai pas eu de gros flop cette semaine. Donc généralement quand c'est comme ça, j'ai plutôt le donner
Un autre show
à quelque chose qui s'est pas
au
déroulé
menu de la
qui enfin,
cantine.
Non, mais en fait, moi, ce qui m'a manqué, parce que là, on est dans, voilà, c'est enfin Money in the Bank est passé, on l'a senti, hein, c'est le gros
C'est le
reboot là du
retour de
côté de
la formule
SmackDown.
qui marche.
Voilà, c'est le retour de la formule qui marche. Et pour moi, il y avait un grand absent dans l'histoire qui est toujours absent,
Shane.
c'est Andrade
Ah
Cien
merde.
Almas, qui avant
C'est
Money in
vrai
the Bank
ça.
s'est fait priver de ses débuts,
Ah merde.
et on pouvait se dire qu'après Money in the Bank, du coup, ils allaient rattraper. Et c'est vrai que
Bah non.
il y a peut-être un petit coup, il y a peut-être un petit coup de mou dans le booking pour Andrade, parce que je pense qu'ils avaient prévu un petit programme d'introduction tranquillou avec Sin Cara, et cette blessure a un peu contrarié leur plan, et ce qui fait que il est un peu laissé sur le carreau pendant que tout le monde avance
Ouais.
là. Donc voilà, c'était mon petit flop. C'est vrai que
Ils auraient pu tout
je
à
comprends,
fait. Le mec est
ils auraient pu
blessé, ils
caler
auraient
une
pu faire une petite
promo.
vignette où ils le tabassent
Ouais,
dans le
voilà,
backstage,
c'est
quoi.
ça. Je trouve qu'ils auraient pu caler une petite promo, le garder frais dans les esprits, parce que voilà, il a un rôle à jouer à SmackDown, je
Ça, dans
pense.
la
Donc
formule qui gagne de SmackDown 5 étoiles, on aurait eu cette séquence-là backstage.
ah ouais. Si pour le 5 sur 5, il y aurait eu ça. Mais du coup, ça me fait mettre un 4,25 cette
Ouh.
semaine. Je suis au-dessus du 4.
Ouh là là.
Au-dessus du 4 parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à voir la division tag team complètement se revigorer, des programmes qui se dessinent chez les filles. En fait, c'est les deux gros axes qui manquaient avant le Money in the Bank, finalement. Un challenger frais pour le titre mondial, un challenger frais pour le titre US, retour de Jeff Hardy, nouveau personnage, plein de choses, plein de choses. Très plaisant ce SmackDown.
Ok, eh ben écoute, moi, mon top, c'est la séquence qui court de Samoa Joe qui se fait éliminer au Miz qui allonge Daniel Bryan. J'ai trouvé ça magique. Il y a vraiment un WWE qui propose ce genre d'histoire, c'est formidable. Mon flop, c'est l'arrivée de Sanity, que j'ai trouvé pas à la hauteur. Même si du coup, ça y est, je suis rassuré, ils sont enfin là. Et ma note, c'est un 4, un bon 4. Ça fait plaisir. On est retourné sur des bonnes bases. On a retrouvé la formule de SmackDown qui fonctionne. On a eu finalement deux excellents shows cette semaine, deux bons weekly. Je vous invite à écouter le catch-up spécial Raw des
Ah oui.
copains, puisque c'est quelque chose dont on n'avait plus l'habitude. Hein, c'était un peu le jeu de la balance. Là, ça y est, on y est. On a deux excellents weekly. Je remercie
Money
du.
in the Bank,
Ouais, bah voilà.
foutez dans la
Le
merde,
Money
hein.
in the Bank, c'était chiant. Ça va, c'est passé. On est bien. D'ailleurs, pas trop frustré qu'on ait aucune des mallettes du côté du show bleu?
Un petit peu, je te dis, je trouvais que le Miz
Eh oui.
était le porteur de mallettes parfait chez les hommes, parce que ça s'écrivait tout seul en fait. Il y avait tellement de choses qui s'écrivaient toutes seules avec le Miz, avec la mallette, que je trouvais que c'était top. Et puis ça lui permettait du coup d'être. Parce que c'est vrai que là on n'a pas parlé forcément de. C'est vrai que la défaite du Miz là dans ce match est. Bon, c'est intéressant d'avoir fait gagner Rusev, mais du coup le Miz n'a pas la mallette.
Ouais.
La scène US est bouchée. La scène mondiale, du coup, est bouchée pour au moins un mois et demi. A priori, Daniel Bryan va être occupé aussi. Ouais. C'est vrai que le Miz, tu sais pas trop. Alors que c'est vrai que s'il avait la mallette, voilà, c'était facile. Après, écoute, Braun Strowman avec la mallette, ça me va bien aussi. Donc,
on verra ce qui, on va voir comment il va l'utiliser. C'est au moins.
Moi, je pense qu'il va la cacher en annonçant.
Oui, je pense aussi qu'on se dirige vers ça. Allez, n'oubliez pas, hein, Catch Up, c'est votre podcast qui résume et analyse tous les shows de cash de la WWE et parfois plus. Vous pouvez nous retrouver en audio sur iTunes, sur PodCloud ou toutes les applications, les logiciels pour suivre et s'inscrire et s'abonner au podcast. Comme ça, vous pouvez nous écouter où vous voulez, quand vous voulez, même s'il n'y a pas de réseau. C'est ça qui est formidable.
C'est ça qui est très fort. Eh oui.
En vidéo, sur YouTube, hein, youtube.com/catchupcdc. Les réseaux sociaux, c'est Twitter, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est simple, c'est catchupcdc. N'hésitez pas à commenter, à partager votre top, votre flop et votre note dans la section commentaires sur la vidéo. Partagez, mettez-nous un pouce. On remercie tous ceux qui étaient dans le chat pendant le live. Je remercie également Giscal pour sa fine analyse.
Merci, merci Irem. C'était encore une fois un plaisir. On a encore débordé. Ça, c'est les épisodes plaisants.
Ouais, c'est difficile. On commence à prendre des habitudes, effectivement, avec des épisodes où on a plus de choses à dire. Parce que, effectivement, comme tu l'as souligné, là, il y avait des belles choses ce soir-là. Oui. Et du coup, écoute, on est plutôt confiant pour la semaine prochaine. Puisqu'on aura en plus, je crois, Nia Jax. Jeff Hardy qui affrontera Shinsuke Nakamura. C'est dès la semaine prochaine, je crois, non ? Entre les deux.
Ah déjà ? Ok, j'ai pas vu d'annonce. J'ai pas fait gaffe,
bon,
peut-être.
De toute façon, les deux vont se croiser. Déjà. Ils vont se mettre sur la tronche. Oh, oui. Et on va découvrir Jeff Hardy avec ce nouveau pot de peinture. Ça va être formidable. Allez.
Oui.
Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut.
Ciao, ciao tout le monde. Apple a spontanément émis comme suggestion que j'aille au Chiquito pour faire le supplément SmackDown. Il me dit lieu suggéré, le Chiquito.
Quoi ?